VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes, Sahel Plus avec Cléon Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire le premier président d'une nouvelle république. Instituée par un changement de constitution ayant permis au président Denis Sassou Nguesso de se représenter. 9 candidats sont en lice. M. Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir à Brazzaville, a promis à ses partisans de l'emporter dès le premier tour. Côté opposition, plusieurs candidats se sont engagés à soutenir au second tour l'aspirant à la présidence le mieux placé parmi eux. Crise burundaise, aucune date n'a été fixée pour le prochain dialogue inclusif dans le pays après la rencontre de ce vendredi entre l'ancien chef d'État tanzanien Benjamin Mkapa et le président burundais Pierre Nkurunziza au Burundi. Le co-facilitateur tanzanien dit vouloir prendre le temps de la réflexion et écouter avec attention les protagonistes pour amener la paix entre les parties en litige au Burundi. Le président burundais, lui, se dit confiant qu'avec cette facilitation tanzanienne, la paix pourra pointer à l'horizon après plus de 10 mois de violence. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après avoir rencontré les présidents Museveni de l'Ouganda, Kagame du Rwanda, le facilitateur dans la crise burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa, s'est entretenu ce vendredi pendant presque 2 heures avec le numéro 1 burundais. Il voulait s'informer sur la situation prévalant dans ces 3 pays au cours des 10 dernières années. L'ancien président tanzanien veut la relance du dialogue inclusif pour une paix durable dans la région, Benjamin Mkapa.
First, I want to express the hope that the peace and stability that has characterized these first 10 years of the Arusha process will continue.
Premièrement, j'ai l'espoir que la paix et la stabilité qui a caractérisé le Burundi pendant ces 10 dernières années après Arusha va continuer. J'ai de l'espoir aussi qu'aucune violence ne va plus se manifester comme cela a prévalu au Burundi ces derniers mois. J'ai rassuré le président burundais qu'après mûre réflexion sur notre rôle et notre participation, l'on pourra mettre fin aux spéculations à propos des possibilités de violence, de confrontation et même de la guerre entre les pays membres de la communauté est-africaine au vu des derniers développements au Burundi, au Rwanda et en Tanzanie, car nous sommes une même communauté, nous sommes des voisins, nous devons vivre ensemble dans la paix et ensuite coopérer et nous développer ensemble. Et je suis en train de voir les paramètres de mon nouveau mandat. Je m'exprimerai longtemps après sur ce que j'aurai appris.
Mais aucune date n'a été fixée pour ce dialogue inclusif, comme l'indique William Benjamin Mkapa.
Aucune date. Pour le prochain dialogue inclusif, je dois d'abord réfléchir sur ce que m'ont dit les 3 présidents, mais je vais en trouver une. Je sais aussi qu'il y a un dialogue inter-burundais qui se déroule à l'intérieur du pays. Je trouverai une solution pour le renforcement de la réconciliation.
The task of reconciliation.
Le président burundais Pierre Nkurunziza a parlé du Rwandais.
On n'a pas oublié aussi de mentionner donc l'ingérence du Rwanda et que nous avons des preuves et que nous allons même présenter au niveau de la communauté internationale, comme nous a été demandé, pour que donc, une fois, ils vont recommencer le dialogue à l'extérieur qui sera aussi soit pris en considération pour qu'il y ait la stabilisation de notre pays où tous les intervenants soient connus et que la facilitation aide aussi à ce que cette situation cesse. Nous restons toujours disposés à ce qu'il y ait aussi le dialogue soit élargi aux autres Burundais qui se trouvent à l'extérieur. L'entretien est d'une importance capitale. Je pense très bien avec son expérience, tout ira bien.
Bujumbura et certaines contrées de l'intérieur du pays sont le théâtre des violences qui ont fait plus de 400 morts et poussé plus de 240 000 Burundais à l'exil vers les pays voisins. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma, toujours dans la tourmente politique. Denis Goldberg, compagnon de lutte de Nelson Mandela et membre de l'ANC au pouvoir, l'appelle donc à reprendre en main la situation ou à démissionner. Le point avec Nathalie Barge.
Je suis consterné par les signes évidents de corruption d'hommes d'affaires qui s'emparent de fonctions de l'État, a déclaré Denis Goldberg, 82 ans, dont 22 passés en prison sous l'apartheid. Les Gupta, famille d'origine indienne proche de Jacob Zuma, sont accusés par des membres de l'ANC d'intervenir dans l'attribution de postes au gouvernement. Le chef de l'État a 2 options. Soit il reprend en main la situation, soit il fait l'autre choix héroïque qui s'offre à lui, démissionner, a estimé Denis Goldberg dans un entretien accordé à 2 journalistes, rapporte l'AFP. Membre de la branche armée de l'ANC, il avait été jugé en même temps que Nelson Mandela et avait écopé de la prison à vie en 1964. Je suis attristé que des personnes qui ont été héroïques aient pu à ce point dévier de leur chemin initial, poursuit Denis Goldberg. Sous le régime de l'apartheid, Jacob Zuma a passé 10 ans au bagne de Robben Island. Président depuis 2009, son deuxième mandat prend fin en 2019.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Niger, à 3 jours du scrutin présidentiel de dimanche, 3 gendarmes abattus hier dans l'ouest du pays dans une attaque attribuée à Al-Qaïda au Maghreb islamique et aussi un haut responsable militaire tué dans l'est dans un autre attentat attribué aux islamistes nigérians de Boko Haram. Les précisions d'Idriss Fall.
D'après Hassimi Massaoudou, ministre de l'Intérieur, l'une des attaques a eu lieu à Dolbel, à la frontière avec le Burkina Faso. 3 gendarmes ont été abattus par des hommes armés qui sont en cavale et l'armée a lancé une vaste chasse à l'homme pour les retrouver. Al-Qaïda au Maghreb islamique est pointé du doigt. L'autre attaque s'est passée à Bosso, dans l'extrême est, près du lac Tchad, à la frontière avec le Nigeria. 5 kamikazes ont attaqué un détachement de l'armée. 4 d'entre eux ont activé leur ceinture d'explosifs et le 5e a été abattu. Un chef militaire a été tué. Boko Haram reste très actif dans cette région sous état d'urgence. Le pays tient dimanche le second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, fera face à Hama Amadou. L'opposant emprisonné depuis novembre a été évacué vers Paris pour un traitement médical. L'opposition nigérienne dit qu'elle ne va pas reconnaître les résultats.
Au Sénégal, le référendum sur la modification de la Constitution est prévu dimanche. La campagne très animée a duré 7 jours et il y a eu même des violences dans certaines localités. Le compte-rendu de Sokhna Natambaye, notre correspondante à Dakar.
Plus que quelques heures avant la fin de la campagne référendaire, les partisans du oui comme ceux du non ont sillonné beaucoup de localités pour sensibiliser les populations sur les 15 réformes proposées par le président Macky Sall. Le front du non se dit confiant. Partout où les membres sont passés, des citoyens ont promis de voter non par conviction. Cheikh Tidiane Gueye, membre de la société civile et un des leaders du front.
Inch'Allah, le non va l'emporter. Nous le savons pour une raison simple. Nous avons parcouru 50 kilomètres à pied en quelques jours. Nous avons vu une population debout et digne et qui sait parfaitement ce qu'elle va poser comme acte le dimanche prochain.
De leur côté, les soutiens du président Sall estiment que ce projet est la preuve que le régime actuel tient à la consolidation de la démocratie. Et comme pour se moquer de leurs adversaires, les partisans du oui déclarent que le non symbolise le pessimisme. Maodo Malick Mbaye de la coalition au pouvoir, Benno Bokuyakar.
Les Sénégalais se sont rendus compte qu'un chef d'État n'a jamais autant réalisé de prouesses sociales en un temps record. La confiance est totale et nous avons vu des jeunes et des femmes assez dégourdis, assez engagés pour le triomphe du oui.
Quoi qu'il en soit, le dernier mot appartient au peuple. Sokhna Natambaye, Dakar, VOA Afrique.
Crise migratoire, l'Union européenne a conclu aujourd'hui un accord aussi controversé qu'historique avec Ankara. Un document qui prévoit que tous les migrants arrivant dans les îles grecques à compter de dimanche seront renvoyés vers la Turquie. Le point avec Jacques Aristide.
Les négociations ont été difficiles et longues, mais ce vendredi, les 28 pays membres de l'UE ont approuvé le projet d'accord négocié à Bruxelles entre le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le chef du gouvernement turc, Ahmet Davutoğlu. L'UE demandait depuis 6 mois à la Turquie de l'aider à endiguer les flux migratoires en mer Égée. D'après l'AFP, les chefs d'État et de gouvernement du bloc européen doivent désormais se retrouver avec M. Davutoğlu pour paraffer ensemble l'accord dont la mesure phare, le renvoi de tous les nouveaux migrants arrivant en Grèce depuis la Turquie, y compris les demandeurs d'asile, a provoqué de vives critiques. L'ONU a ainsi relevé un risque de possibles expulsions collectives et arbitraires, mais les Européens affirment demeurer dans les clous du droit international. Ce rapprochement inédit de l'UE avec la Turquie, qui obtiendra des contreparties substantielles, ne fait pas non plus l'unanimité.
Et pour terminer l'actualité américaine, le président Barack Obama sera à La Havane, à Cuba, dimanche pour une visite historique. Il sera accompagné de sa femme et de ses 2 filles. La visite de la famille présidentielle va consacrer de manière spectaculaire le rapprochement entre Washington et La Havane. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.